Vous écoutez RTL.
Marine Le Pen est restée avec nous. Marine Le Pen, je rappelle que vous êtes bien entendu présidente du Front National et désormais conseillère régionale de la région Hauts-de-France. Ça vous fait rire?
Oui, enfin, j'hésitais entre rire et pleurer, mais je trouve que rire, c'est plus sympa. Oui, c'est... Non, en fait, c'est triste. C'est triste parce que c'est faire fi de la culture des territoires, c'est faire fi de l'histoire. C'est une indication qui n'est même pas géographique, parce qu'à ce moment-là, il fallait mettre Nord de France. Voilà, je trouve que c'est en même temps un manque d'imagination, un manque de poésie. Je pleure la disparition des Picards. Parce que du coup, les Picards disparaissent, on les raye de la carte. Tout ça est affreusement injuste et pour se soumettre à une forme de modernité, on déracine les Français qui n'ont vraiment pas besoin de ça en ce moment. Donc Picardie, Nord-Pas-de-Calais, croyez-moi, c'était bien plus appréciable. Après tout, quand il n'est pas utile de changer, il est utile de ne pas changer.
On va rester dans les changements de nom en donnant la parole à nos auditeurs qui souhaitent vous poser des questions ce matin sur RTL. Bonjour Eric.
Bonjour Marine Le Pen.
Vous nous appelez de Charolles en Saône-et-Loire, soyez le bienvenu, et donc Marine Le Pen vous écoute.
Oui, donc vous êtes à la tête du parti depuis 2011, vous avez fait un excellent travail, vous avez d'excellents résultats aux élections, mais par contre, vous traînez un boulet. Vous n'avez pas coupé les racines du Front National, et donc le nom Front National est un boulet. Voilà, je pense qu'il y a 80% de vos sympathisants qui seraient pour un changement de nom. Alors ma question est claire, Madame Le Pen, quand est-ce qu'allez-vous changer le nom de ce parti ?
C'est vrai que dans les adhérents du Front National, il y a un débat. Il y a ceux qui sont attachés au nom et il y a ceux qui souhaitent en changer. Moi, ce que je ne veux pas, c'est faire une opération cosmétique. C'est-à-dire, je ne veux pas faire comme l'UMP a fait, changer le nom pour changer le nom. Je pense que le Front National a vocation à être un pôle de rassemblement, à vocation majoritaire, que demain, il va être rejoint dans le cadre de la politique d'ouverture qu'il met en œuvre depuis un certain nombre d'années et que je porte. Et le jour où véritablement ce rassemblement se fera, eh bien, peut-être faudra-t-il envisager ce changement de nom pour que cette nouvelle structure, à cette nouvelle structure, corresponde à un nouveau nom.
Vous mais êtes favorable, je pense qu'aujourd'hui, enfin, moi c'est ce que je crois comprendre dans
vos
propos.
En tout cas, je n'y suis pas a priori défavorable, je veux juste que ça corresponde à une réalité et pas uniquement à une opération publicitaire ou cosmétique.
Et quand Eric vous dit que finalement ce nom de Front National aujourd'hui, vous le traînez comme un boulet. Qu'est-ce que vous pensez de cette expression ? Est-ce que c'est en partie vrai ?
C'est-à-dire que médisez, il en restera toujours quelque chose. Vous savez, le Front National a été victime de très violentes campagnes de diffamation, de dénaturation de ses propos, et pire encore, bien souvent, de sa pensée. Et donc, il reste toujours, bien sûr, un parfum de cette diabolisation. Faut-il pour autant se soumettre à ceux qui commettent une telle malhonnêteté ? C'est pas sûr. Et encore une fois, je pense que malgré ces attaques très virulentes à l'égard du Front National, comme l'a rappelé monsieur, le Front National ne cesse de monter, il ne cesse d'acquérir une confiance supplémentaire chez les Français. Mais encore une fois, le jour où il arrivera, comme je l'espère, à accueillir en son sein des gens, patriotes, qui le rejoindront massivement, alors peut-être il sera temps de demander aux adhérents ce qu'ils pensent d'un éventuel changement de nom.
Merci de votre appel, Eric. Un autre Eric vous questionne maintenant. On va commencer à rentrer dans les questions économiques et ayant des rapports, bien entendu, aussi avec l'Europe. Eric, vous nous appelez de Metz, dans le département de la Moselle. Merci d'écouter RTL. Marine Le Pen vous écoute.
Oui, bonjour Yves Calvi. Bonjour Marine Le Pen.
Bonjour.
Alors écoutez, Madame Le Pen, j'adhère globalement à votre programme économique où entre autres, vous privilégiez la préférence nationale. Mais il y a un point qui me gêne, et c'est ma question, c'est l'éventuel retour du franc. Selon moi, je ne suis pas économiste, ne va rien nous apporter à nous Français. Alors ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que ce projet est-il toujours d'actualité ou, comme je l'ai entendu récemment dans les médias, pensez-vous peut-être l'abandonner ?
Alors d'abord, j'aime pas cette expression « retour au front » parce qu'on a l'impression qu'on va revenir au front avec toutes les divisions, etc., avec un front à 6,5%. Non, c'est pas du tout ça. C'est le retour à une souveraineté monétaire. Nous voulons avoir notre monnaie. Moi, ce que je vois, c'est que la Grande-Bretagne est en train de mettre en œuvre ce que j'ai proposé en 2011, à savoir la mise en œuvre d'une négociation avec l'Union européenne sur des points qui sont essentiels à la maîtrise de notre économie et au retour de la croissance, et à l'issue de ces négociations, un référendum. Soit nous avons obtenu le retour de nos souverainetés et je suggérerais qu'on reste dans cette nouvelle forme d'Union européenne, soit nous n'avons pas obtenu ces souverainetés et à ce moment-là, je suggérerais aux Français de sortir par référendum de l'Union européenne. Je vois que la Grande-Bretagne s'est calée en quelque sorte sur la proposition que j'avais faite et ça me paraît positif. D'ailleurs, 53% des Français souhaitent qu'on leur pose la question.
Et Eric vous demande précisément si, oui ou non, vous voulez revenir au franc.
Non mais, ça veut rien dire revenir au franc, ça voudrait dire revenir à la situation antérieure.
Est-ce que vous réinstaurez une autre monnaie que l'euro?
Voilà. Non, je pense qu'il est utile d'avoir une monnaie nationale. Pourquoi? Alors, je vais répondre tout de suite à vos questions parce que c'est ça le plus important. Pas obligatoirement d'ailleurs. Bon, d'abord, nous récupérerons avec une monnaie nationale une très grande compétitivité avec l'Allemagne. Or, il est évident que c'est avec l'Allemagne que nous avons un grand nombre de problèmes de compétitivité. Deuxièmement, ce sera un instrument pour financer les PME et les TPE. Troisièmement, ça permet de faire l'équivalent du quantitative easing pour l'économie réelle en France, ce qui ne peut pas être le cas aujourd'hui, puisque le quantitative easing est à destination des banques et pas de l'économie réelle.
Qu'est-ce qu'on appelle le quantitative easing?
C'est la création monétaire. Bon. Ça permet d'éviter le danger de la déflation, parce que pendant longtemps, on nous a dit que l'inflation était le danger majeur, et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation de danger de déflation, ce qui est catastrophique pour notre économie. Et puis, je vais vous dire, au-delà de tout ça, ça permet d'arrêter de vivre sous le chantage. Car la réalité, c'est qu'en ayant la maîtrise de la monnaie, la Banque Centrale Européenne fait du chantage aux nations. Elle a fait du chantage au Portugal. Elle a fait du chantage à la Grèce. Le chantage est clair. Si vous n'obéissez pas à ce que nous souhaitons, alors nous couperons les robinets la monnaie. Et ça n'est pas supportable. Je vous donne un exemple et je termine là-dessus, pardon. Demain, nous souhaitons arrêter Schengen. Nous souhaitons retrouver la maîtrise de nos frontières. Eh bien, l'Union européenne peut nous dire, si vous faites cela, eh bien, nous allons couper les robinets des banques et vous asphyxier sur le plan financier. Je ne veux pas que les Français vivent sous le chantage, ni le chantage de la Turquie, ni le chantage de l'Union européenne.
Réponse courte, s'il vous plaît, Marine Le Pen. Est-ce que ça veut dire que vous allez faire de l'élection présidentielle un référendum anti-Europe?
Mais non, puisque je vais faire un référendum si je suis élu. Voilà. Mais je vais faire un référendum sur la liberté et la démocratie, parce que ça pose une vraie question de fond. Est-ce que le choix du peuple français est prioritaire par rapport aux exigences de la Commission européenne?
Vous aimeriez qu'on vous appelle Madame Frexit?
Oui, je pense qu'on pourrait m'appeler Madame Frexit, je l'avais dit. En tout cas, si l'Union européenne continue sur sa lancée, on est quand même un peu obligé de faire le bilan. C'est un véritable drame. Regardez, permettez-moi de rebondir sur l'actualité, sur l'agriculture. On a supprimé les quotas laitiers. Notre agriculture est en train de s'effondrer. La situation de l'agriculture française n'a jamais été autant en danger qu'aujourd'hui. Que fait l'Union européenne? Eh bien, elle décide de réintroduire...
On vient d'avoir un accord pour les restaurer, hein, quand même, ça ne vous a pas échappé.
Ah bon, ah oui, bien sûr. C'est un accord pour les restaurer, mais de manière optionnelle. C'est-à-dire qu'en réalité, un certain nombre de pays ont le droit de mettre en place des quotas, mais d'autres ont le droit de ne pas les mettre en place. Ça veut dire qu'on est en train de se tuer deux fois plus vite, de s'assassiner soi-même deux fois plus vite. Ça n'est pas possible, enfin. Écoutez, c'est un petit peu comme si vous nous disiez que demain, il y aura des limitations de vitesse optionnelles sur les autoroutes. Il y a ceux qui ont envie de les respecter, et puis il y a ceux qui n'ont pas envie de les respecter. C'est de l'enfumage, et encore une fois, ça démontre que l'Union européenne est aujourd'hui un instrument de destruction de notre agriculture et d'ailleurs de manière générale de notre économie plutôt que le sauveur qu'on nous avait vendu.
C'est Antoine qui vous interroge maintenant, il nous appelle de Strasbourg. On va essayer de faire des réponses un peu plus courtes pour prendre plus d'auditeurs, s'il vous plaît, Marine Le Pen. Antoine, on vous écoute, merci de...
C'est des sujets complexes que vous me demandez de traiter en quelques secondes.
Oui, l'art de la synthèse est aussi une bonne chose, vous êtes avocat.
Ok, bonjour. Bonjour Marine Le Pen.
Bonjour
Yves Mazerolle. Très heureux de vous avoir au téléphone. Ça fait grand plaisir. Ma question est très simple. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, quand vous travaillez dans une entreprise, d'accord, on va dire sur une base de salaire de 100, d'accord, votre employeur, vous lui en coûtez 200. Donc, ça veut dire qu'il y a 100 qui vont partir dans les charges patronales et sur les 100 qui vous restent, vous payez 25% de charges salariales. Donc, ce qui veut dire que sur les 200 mis en jeu, il vous reste déjà plus que 75. Sur les 75 qui vous restent, vous allez payer des impôts sur le revenu et quand vous allez faire le plein à la station-service, vous allez payer 84% de taxes. Donc, autrement dit, je pense qu'on est déjà pas mal taxé. Aujourd'hui, nos entreprises ont des outils de production qui sont complètement obsolètes. On n'est plus du tout compétitif. On se fait prendre les marchés.
Antoine, quelle est la question ?
La question est la suivante. Madame Marine Le Pen, non, mais il faut le citer, ça c'est important. Qu'est-ce que vous comptez faire aujourd'hui pour relancer l'économie, pour donner à nos entreprises, pour qu'ils puissent créer de l'emploi ? Et pour qu'on puisse redevenir compétitif, si on redevient compétitif, ça va créer de l'emploi. Qu'est-ce que vous comptez faire à ce niveau-là ?
Et accessoirement, quelle taxe comptez-vous supprimer ?
Alors, encore une fois, j'ai déjà répondu en partie à votre question tout à l'heure sur l'ensemble des mesures que nous souhaitons mettre en œuvre pour les TPE et les PME. Parce que moi, ce qui me choque, c'est que le gouvernement est toujours au chevet des grandes entreprises. Or, ce sont précisément, bien souvent, celles qui n'ont pas besoin de la moindre aide. Alors que les TPE et PME, qui sont celles, et les artisans, qui sont ceux qui créent l'emploi dans notre pays, sont totalement oubliés, totalement sortis des radars. Ce sont les oubliés de l'économie. Vous voyez, il y a la France des oubliés et il y a les oubliés de l'économie. Donc oui, vous avez raison, il y a une surtaxation considérable dans notre pays, mais qui est liée au fait que l'on ne fait pas les bonnes économies. Je ne suis pas contre les économies. Moi, je veux que ce soit des économies qui correspondent à des gabegies plutôt que ce soit une politique d'austérité qui tombe toujours sur les mêmes et que je trouve profondément injuste.
Et quelles sont les bonnes économies à vos yeux ?
Les bonnes économies, par exemple, ce sont les 9 milliards que nous perdons chaque année en les accordant à l'Union européenne. Hein. On leur donne 21 milliards, ils nous en rendent 13. Donc c'est 9 milliards perdus chaque année. C'est la politique d'immigration qui nous coûte une véritable petite fortune. Voilà. Et contre lequel on ne fait jamais rien parce que c'est le seul budget qui est sanctuarisé et auquel, en l'occurrence, on ne touche jamais. Ce sont les erreurs de la décentralisation. Où on a vu une explosion notamment de l'embauche des fonctionnaires territoriaux. Donc, on manque de médecins, on manque de policiers, on manque de militaires. En revanche, des fonctionnaires territoriaux, on n'en manque pas, on en embauche à tour de bras. C'est la fraude sociale. 20 milliards d'euros selon un certain nombre de rapports, notamment du Sénat. On ne fait rien contre cela, alors qu'il y a des mesures simples à mettre en œuvre. Par exemple, pour la fraude sociale, la carte vitale, comme les passeports, le terme ne me vient pas. Bon,
biométrique.
Biométrique, voilà, la carte vitale biométrique. Parce qu'on a un passeport biométrique, mais un passeport, ça vous donne presque moins de droits qu'une carte vitale. Donc, cette carte vitale biométrique, elle pourrait être mise en œuvre en 3 mois, elle n'est pas mise en œuvre. Donc, voilà, il y a des choix idéologiques derrière les économies qui sont faites. Or, les économies aujourd'hui, ça consiste à taper sur les classes moyennes, à augmenter les impôts, augmenter les charges qui pèsent sur les très petites entreprises. Et puis, pardon, un dernier mot, excusez-moi d'être un peu longue, mais ce sont des sujets vastes. Si on n'arrive pas à faire baisser le chômage, les charges continueront à peser lourdement sur les entreprises. Parce que plus il y a de chômage, plus les charges qui pèsent sur les entreprises sont lourdes. Alors, plutôt, encore une fois, que de mettre en œuvre la loi El Khomri, mettons en œuvre les mesures pour permettre le retour de l'emploi, l'arrêt de la concurrence internationale déloyale et une monnaie qui corresponde à notre économie.
Merci de nous avoir appelé, Yann. Deux, trois questions d'actualité avant de nous séparer, si vous le voulez bien, Marine Le Pen. Tout d'abord, pensez-vous que Mgr Barbarin doive démissionner de ses fonctions ?
Moi, je ne suis pas chargée de nommer ni de démettre les gens d'église. Ce que je trouve, c'est qu'il faut absolument faire toute la lumière sur cette affaire qui est absolument épouvantable. Pas seulement dans l'église. Dans bien d'autres endroits sévissent des pédophiles, manifestement dans une forme d'impunité. Il y a quelques semaines, c'était un professeur qui avait déjà été condamné pour pédophilie en Grande-Bretagne et qui pourtant a été embauché et mis en contact avec des élèves. Voilà. Donc je suis extrêmement sévère et je n'ai aucune complaisance. Je pense que la justice doit être impitoyable avec ce type d'acte.
Vous avez un nouveau slogan qui est « La France apaisée ». Est-ce que lorsque l'on brigue la présidence de la République française, on doit s'inquiéter de pouvoir avoir en face de soi Donald Trump comme président des États-Unis? Est-ce que cet homme vous inquiète?
Oui, mais c'est intéressant ce qui se passe aux États-Unis. Permettez-moi, bon, bien sûr, tout le monde, il vient de sa petite leçon de morale, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas là pour faire de la morale, je suis là pour faire une analyse politique. Trump et Sanders. C'est très révélateur. C'est le rejet de la classe politique traditionnelle chez les démocrates et chez les républicains. Je pense que les Américains prennent conscience que leurs responsables politiques sont soumis à la défense d'intérêts privés. Or, les Américains veulent, comme les Français, que revienne l'intérêt général. Qu'ils aient des responsables politiques qui pensent à la défense de l'intérêt supérieur de la nation et de l'intérêt supérieur du peuple.
Ce que vous entendez du programme de Donald Trump, ou en tout cas ses propos, sont-ils de nature à vous inquiéter? Votre réponse est non?
Non, mais
bon, d'abord, est-ce que propos... ça peut être une source d'inspiration?
D'abord,
je vais
vous dire, non, mais d'abord, les propos de campagne, ne m'inquiètent guère. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les phénomènes qui sont en train de se dérouler en Grande-Bretagne. Ce qui est dommage, c'est que ça n'intéresse pas la presse qui est dans la petite polémique, alors qu'il est en train de se passer quelque chose de très important. C'est le recul du pouvoir de la finance, du pouvoir de l'argent. Et ça traverse non seulement les États-Unis, mais ça traverse l'Union européenne aussi. Les peuples veulent des dirigeants qui défendent leurs intérêts et pas l'intérêt des multinationales, pas l'intérêt des grandes puissances financières. Ça, je trouve que c'est une analyse beaucoup plus intéressante à regarder de près que les propos de tel ou tel.
Je vous ai bien compris tout à l'heure dans votre première partie de réponse concernant les propos de votre nièce. Vous n'associez pas, vous, le mariage homosexuel à une reconnaissance de la polygamie. J'aimerais bien qu'on
c'est marrant parce que c'est justement pour ça, voyez-vous, que j'ai voulu prendre un peu de hauteur. J'ai voulu prendre un peu de hauteur et arrêter de courir quotidiennement les plateaux pour éviter que la vie politique ne se résume à une succession de buzz, de polémiques.
Oui, Marine Le Pen.
Et que la question
mais
ne soit pas...
je pense vous avoir entendu dire le contraire en 2011.
Réussir, ben oui, comment est-ce qu'on va réussir à avoir la petite dépêche AFP qui va bien et qui va permettre toute une série de reprises?
Marine Le Pen, alors, je me souviens de vous avoir entendu dire pourquoi pas l'autorisation de la polygamie en 2011.
Comme la parole est rare... comme la parole est rare, je n'entends pas répondre deux fois à la même question. Parce que j'ai déjà répondu à cela. Voilà. Et encore une fois, nous avons abordé toute une série de sujets extrêmement importants pour l'avenir des Français, pour leur vie quotidienne, et je m'en réjouis. Et je n'irai maintenant que dans des émissions où je peux parler de fonds politiques, oui, parce que je crois que les Français sont excédés par les polémiques artificielles.
La constance en politique est importante, et je voudrais juste savoir s'il faut croire la Marine Le Pen de 2016 ou celle de 2011. Sur ces questions
mais ça,
de société
mais ça n'a pas de sens.
Qui ne vous sont pas indifférentes, je le sais.
Oui, mais vous mettez sur le même plan une analyse politique et une analyse juridique. Juridiquement, l'ouverture du mariage aux homosexuels permet d'envisager que d'autres revendications puissent s'exprimer. Politiquement, je pense que nous en sommes extrêmement éloignés parce que les Français, évidemment, à mon avis, à 99%, seraient tout à fait opposés à envisager, ne serait-ce qu'une seconde, que la polygamie soit autorisée dans notre pays, même si en réalité, elle l'est déjà un peu, puisque les services sociaux la prennent en compte, puisque dans les HLM, on accorde sur le même palier des appartements mitoyens pour permettre aux familles polygames de vivre en toute sérénité ensemble, etc. Sujets qui ne font jamais, hélas, la une de la presse, car ça, ce sont des véritables scandale.
Marine Le Pen, merci d'être venue ce matin.
C'est
reprendre
moi
la
qui
parole
vous
sur RTL. Juste une chose, sur notre antenne hier soir, Madame Toulokonikova a affirmé que Vladimir Poutine finançait le Front National. Ça a une once de réalité?
Non, ça n'a absolument aucune réalité.
Merci, à bientôt sur RTL.